VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition du mardi 19 janvier 2016 en direct de Washington, Tatiana Mosso et Anne Albertson.
Au Burkina Faso, la photographe franco-marocaine Leila Alaoui, grièvement blessée dans l'attentat de Ouagadougou, est décédée lundi soir, a annoncé l'agence de presse marocaine MAP. Et parallèlement, l'enquête se poursuit pour lever les zones d'ombre.
Au Burundi s'ouvre ce mardi le dialogue inter-burundais. L'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas.
Au Sénégal, la réforme de la Constitution a commencé, en jeu notamment la durée du mandat présidentiel qui passerait de 7 à 5 ans.
À peine les accords signés entre Washington et Téhéran, après 37 ans de gel, le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre le programme de missiles balistiques de l'Iran.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. L'enquête se poursuit donc au Burkina Faso pour déterminer les circonstances précises de l'assaut djihadiste qui a fait 30 morts à Ouagadougou. La photographe franco-marocaine Leila Alaoui, qui avait été grièvement blessée dans l'attentat, est décédée lundi soir, a annoncé l'agence de presse marocaine MAP. Le point sur les conséquences de cette attaque d'une ampleur inédite avec Jean-Roger Bion.
La jeune femme est décédée dans une clinique de la capitale Ouagadougou des suites d'un arrêt cardiaque, a indiqué l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. Leila Alaoui avait été blessée par balle vendredi soir alors qu'elle se trouvait à la terrasse du café-restaurant Cappuccino. Transportée à l'hôpital, elle avait été opérée durant plusieurs heures. La jeune femme était reconnue dans son milieu professionnel au Maroc, en France, ainsi qu'au Liban, où elle vivait une partie de l'année. Elle se trouvait au Burkina Faso dans le cadre d'une mission pour l'ONG Amnesty International. Sur le théâtre de la des enquêteurs, dont certains en blouse blanche, ont poursuivi leur travail de collecte d'informations. 18 enquêteurs français, dont des magistrats et des membres de la police scientifique, étaient sur place pour épauler les Burkinabés. Après ce raid meurtrier, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la capitale avec une surveillance accrue des hôtels et de plusieurs points stratégiques. Des barrages ont été installés aux entrées et sorties des principales villes du pays, selon une source sécuritaire. Selon l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, c'est toute une sous-région qui a été frappée. La question aujourd'hui, c'est à qui le tour, a-t-il déclaré. Le président burkinabé Rokma Christian Kabore a réitéré sa volonté de voir les pays de la région travailler ensemble. Nous sommes dans une guerre asymétrique et il faut que nous puissions former notre armée à ce nouveau type de combat, a-t-il conclu.
Au Niger, au moins 6 militaires nigériens ont été tués par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans la région de Difa, dans le sud-est, région frontalière du Nigeria, où sévissent des militants islamistes du groupe nigérian Boko Haram. Les autorités évoquent également 5 blessés, a indiqué la télévision nationale Télé Sahel. Les victimes font partie d'un groupe de 11 soldats à bord d'une Toyota 4x4 et qui étaient en mission dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, selon les responsables militaires de la zone.
Au Sénégal, la réforme tant annoncée de la Constitution est en route. Macky Sall avait promis de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le texte a été soumis lundi au Conseil constitutionnel qui a un mois pour donner son avis. Michel Joseph.
Le texte qui détaille les orientations exposées par le président lors de ses vœux de nouvel an porte sur 15 réformes, à commencer par les règles électorales ou encore l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Selon le quotidien d'État, Le Soleil, en inscrivant dans le projet de révision la réduction du mandat en cours, Macky Sall rassure tous les Sénégalais quant à la sincérité de l'engagement qu'il a pris il y a 4 ans. Parmi les articles amendés, dont celui sur la durée du mandat présidentiel, il est précisé que cette disposition s'applique au mandat en cours et qu'il ne peut faire l'objet de révision. Élu en février 2012, pour 7 ans, le chef de l'État sénégalais s'était engagé à ramener son propre mandat de 7 à 5 ans. Un référendum pourrait être organisé d'ici le mois de mai 2016 pour déterminer si la prochaine élection présidentielle se tiendra en 2017 ou en 2019. Lors d'une rencontre avec l'Association de la presse étrangère en mars dernier, le président Sall avait expliqué vouloir donner un exemple. Il faut qu'on comprenne, en Afrique aussi, qu'on est capable de donner la leçon et que le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. Le Conseil constitutionnel sénégalais a été saisi et dispose en principe d'un mois pour donner un avis sur les réformes qui lui ont été soumises.
Au Nigeria, procès devant la Cour suprême du pasteur évangéliste nigérian Tebe Joshua et des administrateurs de son église de toutes les nations pour un cas de négligence criminelle ayant fait 116 victimes, principalement des Sud-Africains, lors de l'effondrement d'un immeuble en septembre 2014.
Et toujours au Nigeria, le président de la Banque centrale du pays, Godwin Emefiele, sera mardi à Abuja, devant la chambre haute du Parlement, alors que l'opposition appelle à sa démission en raison de la chute de la devise nigériane, le Naira.
Crise au Burundi, c'est ce mardi que doit débuter le dialogue inter-burundais. C'est ce qu'indique la Commission nationale du dialogue, créée en septembre par le gouvernement. Mais l'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Plus de détails avec Morgane Guirec.
Pourquoi les élections sont-elles toujours suivies de violences au Burundi ? Telle est la question posée par les autorités à l'occasion de ce dialogue qui doit réunir quelques 400 délégués des confessions religieuses, des partis politiques, de la société civile, des jeunes, des femmes, de l'armée et de la police. À l'issue de la rencontre, la Commission nationale du dialogue inter-burundais devra faire des recommandations sur ce qui doit être fait pour consolider la démocratie au Burundi. Le débat d'aujourd'hui se tiendra à Kirundo, dans le nord-est du pays. Des débats suivront dans d'autres localités, dont Bujumbura, les jours suivants. L'opposition a annoncé son refus de prendre part à ce dialogue, dénonçant une mascarade.
Le réalisateur belge Thierry Michel a déclaré lundi être soulagé de pouvoir enfin projeter en République démocratique du Congo son film « L'homme qui répare les femmes », consacré à l'œuvre du chirurgien congolais Denis Mukwege en faveur des femmes violées dans l'est de la RDC. Sorti en Europe début 2014, ce documentaire devait être projeté en septembre à l'Institut français de Kinshasa, mais avait été frappé d'interdiction par les autorités. Après Kinshasa, le film doit être diffusé à Bukavu jeudi, puis dimanche à Lubumbashi, deuxième ville de RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après la levée de la plupart des sanctions internationales contre l'Iran au cours du week-end, la journée d'hier a été marquée par de nombreuses annonces. Les relations entre Téhéran et Washington ne sont pas toujours sans accroc. Les explications de Nicolas Pineau.
Oui, les tensions entre les deux pays persistent après l'annonce dès dimanche par le Trésor américain de nouvelles sanctions pour protester contre le programme de missiles balistiques de l'Iran. Hier, c'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui a déclaré avoir été frustré et furieux en voyant la vidéo publiée par Téhéran montrant 10 Marines américains en détention. Sur le plan diplomatique, le président iranien Hassan Rouhani va se rendre en France et en Italie la semaine prochaine. Ce sera la première tournée en Europe après l'accord nucléaire conclu entre Téhéran et les grandes puissances. Cet accord vise à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions ayant asphyxié l'économie de ce pays qui détient les quatrièmes réserves de brut au monde et les deuxièmes de gaz. C'est dans ce contexte que l'Iran a annoncé hier une augmentation majeure de sa production pétrolière. L'Iran a la capacité d'augmenter sa production de 500 000 barils par jour, a déclaré Rokhneddin Javadi, le chef de l'Organisation nationale iranienne du pétrole. Membre de l'OPEP, l'Iran produit actuellement 2,8 millions de barils par jour et en exporte un peu plus d'un million.
Les autorités marocaines ont annoncé hier l'arrestation d'un Belge d'origine marocaine lié directement aux auteurs des attentats de novembre à Paris. L'enquête sur ces attaques se concentre plus que jamais en Belgique, John Lyndon.
Âgé de moins de 30 ans et célibataire, le Belge, identifié par ses seules initiales J.A., a été interpellé et arrêté le 15 janvier au domicile de sa mère dans la ville d'Al-Mohammadia, près de Casablanca. Il est lié directement à certains auteurs des attentats de Paris qui ont fait le 13 novembre 130 morts et ont été revendiqués par le groupe État islamique. Selon l'enquête marocaine, ce Belge s'est rendu en Syrie avec l'un des kamikazes qui s'est fait exploser dans la région de Saint-Denis. Il a rejoint dans un premier temps le front Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant d'être enrôlé par l'État islamique. Durant son séjour en Syrie, il s'est entraîné au maniement des armes et a établi des liens avec des commandants de l'État islamique, dont le cerveau des attaques terroristes dans la capitale française. D'après l'enquête marocaine, le Belge a quitté ensuite la Syrie pour la Turquie, puis s'est rendu en Allemagne et en Belgique avant d'arriver au Maroc via les Pays-Bas. Le prévenu sera présenté devant la justice dès la fin de l'enquête.
On retrouve la Minute Éco avec Nicolas Pineau.
fléau de la corruption au Nigeria, des ministres, gouverneurs d'État, chefs d'entreprise et responsables de la fonction publique et des banquiers sont accusés d'avoir volé 6,7 milliards de dollars de fonds publics en 7 ans. Selon Lai Mohamed, le ministre nigérian de l'information, ces fonds ont été volés par tout juste 55 personnes entre 2006 et 2013. La situation est dramatique. La période concernée correspond à la fin du second mandat d'Olusegun Obasanjo, premier président élu démocratiquement après plusieurs années de dictature militaire au Nigeria. Les émissions de dettes en Afrique subsaharienne ont chuté à leur plus bas niveau en 3 ans, en 2015. Selon les données de Thomson Reuters, affectés par le recul des devises et la croissance balbutiante, ils ont découragé les investisseurs. L'Afrique subsaharienne a émis 15,5 milliards de dollars de dettes en 2015, soit une baisse de 22% par rapport à 2014 et le plus faible niveau enregistré depuis 2012. C'est l'Afrique du Sud, l'économie la plus avancée du continent, qui a été le plus grand pays émetteur d'obligations sur les marchés nationaux comme internationaux, avec un tiers des émissions devant la Côte d'Ivoire, 28%. Enfin, la licence 3G a été délivrée à Move Togo, le second opérateur de téléphonie mobile dans le pays, par un décret du gouvernement rendu public ce lundi. L'autorisation est accordée pour une durée de 6 ans jusqu'en 2021, par extension de la dernière licence 2G dont bénéficie Move Togo depuis le 21 décembre 2009 et sur laquelle le deuxième opérateur national derrière Togocel a bâti sa stratégie de croissance en zone rurale, notamment par la construction de 300 pylônes relais.
Et maintenant notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Tatiana.
On commence le CHAN.
Oui, dans le groupe D, les premiers matchs auront lieu ce mardi. Le Zimbabwe affronte la Zambie et le Mali joue contre l'Ouganda. Hier, dans le groupe C, malgré un doublé d'Ahmed Akaichi, la Tunisie a été tenue en échec par la Guinée, 2-2. Le Nigeria, lui, a écrasé 4-1 le Niger. Le prochain match du Rwanda, ce sera demain mercredi, ce sera face au Gabon. Il faut le dire, hein, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Sur l'organisation et le déroulement même de la compétition, eh bien, écoutons Bokingo Emmanuel, il est vice-président et porte-parole du comité d'organisation du CHAN 2016.
Jusque-là, on est vraiment satisfait. Tout va bien, tous les stades sont pleins de supporters, des équipes. Le troisième groupe a joué au stade de Kigali, à Nyamirambo, et le stade était plein. Et le quatrième groupe va évoluer à Rubavu. Je suis maintenant sur ce stade de Rubavu et il y a un grand engouement. Nous espérons que le stade sera plein.
C'était Bokingo Emmanuel, membre du comité d'organisation du CHAN 2016.
En cyclisme, l'Italien Andrea Pallini a remporté la première étape de la Tropicale à Missabongo.
Oui, le coureur de l'équipe Skydive Dubaï a remporté l'étape de ce lundi disputée sur 146 km entre Kango et Lambaréné. Il prend donc la tête du classement général. Pallini, âgé de 26 ans, a devancé au sprint le Bélarusse Yoheni Houtarovic et le Français Adrien Petit. La deuxième étape ce mardi reliera Fougamo à Mouila sur 105 km.
Après le football, l'athlétisme, c'est désormais le tennis qui est touché par un énorme scandale de corruption.
Plusieurs tennismen de haut niveau mondial comme le Serbe Novak Djokovic ou le Français Arnaud Clément ont déjà reconnu avoir été approchés pour truquer des matchs. Mais jusqu'à présent, seuls les seconds couteaux ont été sanctionnés. 18 sanctions pour des matchs truqués, dont 6 suspensions, ont été prononcées par l'Unité pour l'intégrité du tennis, l'organisme anticorruption du tennis mondial, depuis sa création en 2008. C'est ce qu'a rappelé lundi à Melbourne le président de l'ATP. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les accusations des médias britanniques, 16 joueurs du top 50 mondial, dont des vainqueurs en Grand Chelem, pourraient avoir truqué des matchs ces dernières années. Affaire à suivre. Et Tatiana, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Philadelphie perd 113 à 119 face à New York, Utah perd 119 à 124 face à Charlotte, Portland s'impose 108 à 98 face à Washington, la Nouvelle-Orléans perd 99 à 101 face à Memphis, Chicago mène 111 face à Détroit, 101 points, Orlando perd 81 à 98 face à Atlanta, Brooklyn 100 à 112 face à Toronto, San Francisco s'impose 132 à 98 face à Cleveland et enfin Boston s'incline face à Dallas 113 à 118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui, nous passons à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les combattants de Boko Haram ont tué plus de 1000 civils et soldats. Ils ont aussi aggravé les conditions de vie des agriculteurs vivant dans les zones frontalières avec le Nigeria, en faisant perdre au pays des milliers de bovins et d'ovins, nous dit Moki Edwin Kinzedza, dans ce reportage repris ici par Edrissa Seydoudia.
Non. You think say I feel go for protocol again?
Moussa Ibrahima est un éleveur de bovins. Il s'est installé avec sa famille et 45 vaches sur la rive de la rivière Vina à Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Il dit avoir quitté sa ville natale, située à 650 km, à cause des attaques de Boko Haram. Et il s'est juré de ne pas retourner à Fotokol parce que les combattants de Boko Haram attaquent et tuent les éleveurs. Beaucoup d'entre eux, dit-il, ont été forcés de traverser la frontière nigériane avec leur bétail pour ne plus revenir au Cameroun. Kalbassou Daniel, un député du Nord, dit que souvent les assaillants se déguisent en éleveurs transportant leurs vaches au marché du Nigeria. Les combattants de Boko Haram, poursuit-il, volent de plus en plus les vivres et le bétail des éleveurs et agriculteurs camerounais.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés en divagation. Personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf. Et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Boko Haram s'est mis à attaquer le Cameroun il y a 3 ans, après que les troupes camerounaises ont commencé à aider les forces gouvernementales nigérianes dans leur lutte contre le groupe terroriste. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, estime à environ 1200 soldats et civils le bilan des victimes de Boko Haram depuis. Au moins 5000 vaches ont été aussi volées et un nombre indéterminé tué.
In 2014, 1160 cattle were stolen.
En 2014, 1160 bovins ont été volés à notre peuple par le groupe criminel et barbare Boko Haram. En 2015, le nombre était de 4200, si l'on exclut les petits ruminants.
Excluding small ruminants.
Bien que Boko Haram ait ciblé ces derniers mois agriculteurs et éleveurs, a ajouté M. Chiroma, le groupe rebelle a vu sa capacité à frapper drastiquement réduite grâce aux contre-offensives des forces camerounaises et nigérianes dans ses bastions.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham.
Au moment où les différentes parties signataires de l'accord pour la paix au Mali se trouvent à Alger, à Bamako, c'est la mise en place du comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord. Ce comité a pour mission de réfléchir sur les actions concrètes à mener dans le cadre de l'application de l'accord pour la paix. Le point avec Kassim Traoré.
Ce comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord pour la paix est composé de différents départements ministériels concernés, les représentants des groupes armés ainsi que des partenaires du Mali. Modibo Keïta, premier ministre, président du comité national.
Nous avons estimé que le Mali lui-même doit être accompagné, mais qu'il faut éviter qu'il soit l'accompagnateur. Conclure un accord de paix est une chose, mais mettre en œuvre cet accord est une autre chose. Et très souvent beaucoup plus difficile que la première étape, même si c'est là le préalable. Chacun sait que l'une des difficultés que nous traversons, c'est le suivi, la mise en œuvre. Un suivi critique. C'est ce que vous êtes demandé. Quand vous regardez la composition de cette commission, vous vous rendrez compte que nous l'avons voulu la plus inclusive possible.
Coordonner les actions concrètes afin de faciliter l'application efficace de l'accord pour la paix, tel est l'objectif de ce comité. Lassine Boiré, membre du comité.
Il a comme objectif de fixer les objectifs à atteindre dans la mise en œuvre de l'accord, de valider le plan d'action de mise en œuvre que le gouvernement va élaborer, mais aussi et surtout d'évaluer périodiquement les actions réalisées pour faire les ajustements nécessaires.
Dans ce comité, il y a des membres permanents et des membres associés. Ils doivent travailler avec toutes les compétences. C'est ce que souhaite le premier ministre, président du comité, Modibo Keïta.
Les membres permanents, c'est des membres qui, nuit et jour, doivent être disponibles pour mettre en œuvre sur le plan sécuritaire, le plan du développement, le plan politique, et le plan de la réconciliation. Mais les membres associés, c'est le baromètre. C'est eux qui, une fois réunis, disent « Vous êtes en train d'aller dans tel sens, mais nous pensons qu'il faut aller dans tel ou tel sens. » C'est pourquoi il est bon qu'on clarifie la notion de membre associé à la mise en œuvre, mais pas associé au comité lui-même.
Le Mali, selon le Premier ministre, doit s'unir pour faire face aux terroristes.
Personne ne peut prouver que les mouvements armés signataires de cet accord sont entrés en belligérance avec l'État du Mali, avec les femmes, avec les populations. Cela est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation a permis d'isoler une autre frange qui ne vit qu'à travers la violence et qui ne s'attaque qu'aux populations. C'est quand même les djihadistes et les terroristes. Cela appelle une espèce d'union sacrée.
Le comité national de coordination de l'accord doit se réunir une fois par mois et chaque trimestre élaborer un rapport d'étape qui sera soumis au gouvernement. Au moment où le comité est mis en place, les protagonistes de la crise malienne sont à Alger pour faire une évaluation de la mise en application de l'accord sur le terrain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ONG Amnesty International appelle les multinationales qui utilisent des batteries lithium-ion dans leurs produits à procéder à des contrôles en enquêtant notamment pour savoir si le cobalt est extrait dans des conditions dangereuses ou par des enfants. En effet, la République démocratique du Congo assure à elle seule plus de la moitié de la production mondiale. Nanit Talani a joint Sabine Gagné, chargée de campagne pour les entreprises et les droits humains chez Amnesty International France.
Ce rapport illustre des cas de travail dans des conditions extrêmement difficiles, aussi bien pour les enfants que pour les adultes d'ailleurs, puisqu'il présente des cas de mineurs qui travaillent à main nue, simplement avec un burin et un marteau, dans des tunnels extrêmement dangereux. Et donc il y a un grand nombre de morts qui ont été référencés en RDC pour extraire le minerai qui est le cobalt. Le droit international recommande aux entreprises de respecter les droits humains. Il y a notamment un guide de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui conseille aux entreprises de respecter les droits humains en suivant des procédures très claires. Mais il n'existe pas de règles contraignantes pour les entreprises pour se renseigner sur la provenance de ce minerai qui est le cobalt. Et ce qu'on constate, c'est que s'il n'y a pas de règles contraignantes pour se renseigner sur la provenance de ce minerai, eh bien les entreprises ne se renseignent pas sur les conditions d'extraction du cobalt.
Ce sont des grandes marques électroniques qui sont impliquées. Que risquent ces entreprises ?
Alors, dans notre rapport, nous n'incriminons pas directement les marques comme Apple en les accusant de travail d'enfant. On a retracé une chaîne qui indique que, compte tenu des réponses très légères des entreprises qui ne savent pas si leur cobalt provient de RDC ou non, et si le cobalt a été extrait par des enfants ou produit dans des conditions de travail extrêmement dangereuses, et bien étant donné que ces marques ne savent pas, ça nous inquiète énormément.
Est-ce qu'il y a quelque chose que ces entreprises pourraient faire ?
Les entreprises pourraient se renseigner auprès du fondeur, c'est-à-dire l'entreprise qui a transformé le produit brut en produit utilisable pour les produits finis. Et normalement, donc, elles doivent se renseigner auprès de ce fondeur pour qu'il l'informe de la provenance de ces minerais. Or, la faiblesse réside en partie, par exemple, dans la législation congolaise qui n'oblige pas les bureaux d'achat à s'informer de la provenance des minerais et surtout sur les conditions d'extraction de ceux-ci.
C'était Sabine Gagné, chargée de campagne pour les entreprises et les droits humains chez Amnesty International. Elle répondait à Nanit Talani.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Au moment où les différentes parties signataires, on va revenir sur le Tchad, la région de Bata, au centre du pays, regorge d'or. La découverte a été faite en fin d'année 2015 par les autochtones avec l'aide de détectives. Cette richesse minérale attire des personnes de tous les horizons. Mais trop souvent, ils exploitent l'or de manière artisanale, une activité interdite par le gouvernement. Le point avec André Kodmajingar.
L'exploitation de cette richesse qualifiée par les autochtones d'une manne naturelle se fait de façon artisanale et frauduleuse par des milliers d'orpailleurs venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Soucieux d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de minimiser les risques sanitaires et alimentaires, le gouvernement a interdit toute activité d'orpaillage dans cette localité jusqu'à nouvel ordre et l'évacuation sans délai des personnes se trouvant dans la zone. Les forces de l'ordre déployées sur le terrain ont dispersé les orpailleurs de manière violente. 8 députés de la région dénoncent à travers un mémorandum adressé au gouvernement les exactions perpétrées par les forces de l'ordre sur la population. Pour le député Rakis Ahmad Saleh, l'interdiction de cette activité ne se justifie pas.
Malgré l'afflux de tout ce monde, aucun comportement déviant n'a été constaté. Comme c'est une manne du ciel, la population souhaitait que chacun tente sa chance. Nous n'avons pas compris pourquoi les militaires se sont mis à chasser, brutaliser, arracher les appareils, tout ce que vous pourrez imaginer comme comportement déviant.
Pour ces victimes que vous allez entendre, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la population, faisant des morts d'hommes.
Nous sommes des autochtones des villages Garia et Tchaga. Notre sol est pauvre et c'est Dieu qui nous a bénis avec cette richesse. À notre grande surprise, les militaires nous ont encerclés et nous tirent dessus. 4 personnes sont tuées sur place. Moi, j'habite à Aki. J'ai travaillé sur le site seulement 2 jours et les gendarmes sont venus nous intimer lors de quitter le coin. Ils ont brûlé tous nos matériels de travail et ont ramassé nos engins à 2 et à 4 roues. Dans la panique, chacun fuit de son côté.
Le député Rakis Ahmad Saleh exige que lumière soit faite sur cette situation.
Nous prenions à témoin l'opinion nationale et internationale, les associations de défense des droits de l'homme sur les conséquences de ces drames causés par les agissements démesurés des militaires qui tirent à balles réelles sur tout ce qui bouge. Doit-on systématiquement abattre les pauvres citoyens qui triment pour gagner sa vie? Nous appelons le gouvernement à clarifier cette situation et à dédommager les victimes.
Les 8 députés de la région du Bata demandent au gouvernement de réglementer le secteur en délivrant les autorisations aux demandeurs, car, disent-ils, c'est une richesse naturelle qui pourrait aider à développer la région au même titre que le pétrole. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
Au Congo-Brazzaville, les défenseurs des droits humains et les opérateurs culturels tirent la sonnette d'alarme. La culture des populations autochtones va bientôt disparaître si rien n'est fait. Une loi adoptée en 2011 vise pourtant à protéger ce patrimoine, mais elle n'est pas toujours mise en application. Seules les initiatives privées permettent de perpétuer le mode de vie des autochtones congolais à l'image du musée créé par Sorel Eta. De Brazzaville, la correspondance de Nguela Ngoussou.
Nombreux estiment que si on ne faisait rien, on ne parlerait plus de ces populations qui représentent 10% des habitants du Congo. Sorel Eta, opérateur culturel et ethnologue, vient de créer un musée à Brazzaville.
Bon, en fait, c'est la volonté de promouvoir la culture Aka, d'œuvrer en sa sauvegarde, parce qu'elle est en voie de disparition. Sur les vestimentaires, on a des jupes rafia qu'on appelle le bandoudou, on a les luminaires, ce qu'ils utilisent pour éclairer le campement, pour éclairer la hutte. Nous avons des lianes à eau, la natte en écorce battue qu'on appelle du coco, utilisée comme natte pour dormir, bien sûr, mais autrefois, c'était aussi utilisé pour ensevelir les morts. Voilà, donc il y a plein de trucs qu'on peut voir, qu'on peut découvrir en visitant le musée.
Nuit et jour, Sorel Eta se bat à faire connaître le conservatoire aux plus jeunes. Ce jour, les élèves de l'école Joseph Perfection de Wenze sont à la visite. Ils sont simplement émus à la fin.
Ça appartient au Pygmée. Pour que on doit avoir, si par exemple, si on va à la forêt pour reconnaître un pygmée
avec les Indiens, avec du sakasaka pour frotter avec les piqûres qui sont en dessous. Vous voyez que je connais maintenant comment faire ça.
En 2011, le Congo a été le premier pays d'Afrique centrale à avoir consacré une loi à la protection de la culture de ses peuples. 5 ans après, Roch Eloge Nzobo, l'un des acteurs, est tout simplement déçu.
Je peux dire que la situation des autochtones ne s'est pas améliorée et la garantie de leur patrimoine culturel n'est pas effective.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. C'est la fin de cette édition. Merci à Anne Albertson pour le suivi et de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.